Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant la prière et nous en sommes à l'étude numéro 10. Il y a 7 points qui définissent la prière. Par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami et recevoir un nouveau témoignage de l'amour de Dieu qui lui donne vraiment tout son amour. Cela est une merveilleuse réalité. La prière est un épanchement sincère, conscient, plein d'amour de notre cœur ou de notre âme à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons prier avec la force et avec l'aide du Saint-Esprit pour les choses qui sont promises par Dieu selon sa sainte parole pour le bien de son Église, et ceci avec soumission dans la foi et à la volonté divine. Les 7 points essentiels qui définissent la prière sont les suivants. Premièrement, la sincérité. Deuxièmement, la prière consciente. Troisièmement, un affectueux épanchement de notre âme à Dieu, et ceci par Jésus-Christ. Quatrièmement, nous devons prier avec la force, avec l'assistance du Saint-Esprit. Cinquièmement, nous devons prier pour les choses qui sont promises par Dieu selon sa sainte parole. Sixièmement, nous devons prier pour le bien de l'Église. Et septièmement, nous devons prier avec soumission dans la foi et à la volonté de Dieu. Donc, premièrement, tout d'abord, c'est un épanchement sincère de notre âme à Dieu. La sincérité est une grâce. Elle accompagne et même elle domine toutes les actions du chrétien. Voyez-vous, sans elle, sans la sincérité, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. David insiste tout particulièrement sur la sincérité quand il parle, par exemple, de la prière. Il a dit « J'ai crié à lui, à Dieu, de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alors le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, versets 17 et 18. Voyez-vous, la sincérité est une partie intégrante de la prière, sinon Dieu ne l'accepte pas comme telle. Il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ceci est dit dans Jérémie, chapitre 29, versets 12 et 13. Son absence fait rejeter par le Seigneur les prières de tous ceux dont il est question dans Josué, au chapitre 7, verset 14, où il est dit ceci. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, ce qui signifie avec sincérité, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils font semblant de prier, ils font un étalage d'hypocrisie pour être vus et pour être applaudis des hommes. Or Christ, il approuva la sincérité de Nathanaël quand il le vit sous le figuier. Il a dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Saint Jean chapitre 1 verset 47. Il est donc probable que cet homme bon était en train d'épancher son âme à Dieu dans la prière sous le figuier, et ceci avec un esprit sincère et sans feinte devant son Seigneur. Oui, c'est la prière dont la sincérité est un des principaux éléments et la prière qui sera agréable à Dieu. Ainsi la prière de l'homme droit, lui, est agréable. Je répète, la prière de celui qui est droit devant l'Éternel sera agréable. Proverbe chapitre 15, verset 8. Et pourquoi la sincérité doit-elle être le caractère essentiel de la prière acceptée de Dieu? Mais tout simplement parce que la sincérité, voyez-vous, elle conduit l'homme à ouvrir son cœur à Dieu en toute simplicité, à lui exposer le cas tel qu'il est, sans équivoque, à se condamner simplement sans dissimulation, à implorer Dieu de tout son cœur, sans aucune flatterie. Jérémie chapitre 31, verset 18. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'a pas été dompté. Jérémie 31, verset 18. Donc, la sincérité est la même dans un lieu secret que face au monde entier. Elle ne peut porter deux masques, l'un pour paraître devant le monde et l'autre pour l'usage privé. La sincérité ne cherche pas de vaines paroles, car comme Dieu, elle regarde dans le cœur, oui, dans le cœur d'où vient la prière. S'il s'agit par exemple d'une vraie prière ou simplement d'une simulation. Deuxièmement, la prière, elle est un épanchement sincère et conscient qui vient du cœur ou de l'âme, plutôt des deux à la fois. Elle ne consiste donc pas, comme beaucoup le croient, en quelques vaines paroles ou bavardages, ou en quelques expressions flatteuses, pas du tout. Elle est un sentiment conscient dans notre cœur. La prière porte en elle la conscience de sentiments divers, parfois le sentiment du péché, parfois celui de la grâce reçue, parfois celui de l'empressement de Dieu à accorder la miséricorde. Nous sentons le besoin de la miséricorde divine à cause du danger où nous place notre péché. L'âme, je le dis, est sensible. Et à cause de cela, elle soupire, elle gémit, et parfois même elle brise le cœur. Une vraie prière sort donc du cœur quand il est accepté de tristesse. Surtout que la prière qui est faite dans une certaine tristesse, voire même d'amertume, comme le sang qui jaillit par exemple de la chair quand un lourd fardeau pèse sur elle. Là, nous avons 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et le psaume 69 verset 3 qui nous donne cette idée-là. Et le roi David est courbé, il est abattu au dernier point, il est vrai. Et il marche avec beaucoup de tristesse. Il est sans force et il nous est dit qu'il est même brisé, selon le psaume chapitre 38, versets 7 à 9. Ézéchias également, on peut le dire, Ézéchias, il gémit même comme une colombe, nous est-il dit dans Ésaïe chapitre 38, verset 14. Éphraïm, donc, se lamente. Jérémie 31, verset 18. Et l'apôtre Pierre, il pleure amèrement. Eh oui, c'est écrit dans Saint Matthieu chapitre 26, verset 75. Jésus-Christ, lui, il pousse de grands cris et il verse des larmes, selon Hébreux chapitre 5, verset 7. Et tout cela vient du sentiment de la justice de Dieu, du poids du péché, des douleurs de l'enfer et de la destruction. Voyez-vous, les liens de la mort m'avaient environné, est-il dit ? Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Donc, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais, j'invoquais le nom de l'Éternel, nous est-il dit dans le merveilleux psaume chapitre 116, versets 3 à 4. Et ailleurs, toujours dans les psaumes, pour le moment, hein, eh bien là, il est dit que ma voix s'élève à Dieu et je crie. Oui, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Psaume 77, verset 2. Et encore je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Psaume 38, verset 7. Nous sommes encore dans les psaumes. Voyez-vous, chers amis, tous ces exemples nous montrent bien que la prière porte en elle un sentiment conscient dû avant tout au sentiment de péché. Quelquefois, on reçoit un doux sentiment de grâce, grâce encourageante, réconfortante, fortifiante, vivifiante et éclairante. Ainsi, David élève son âme pour bénir, pour louer, pour admirer le Dieu Tout-Puissant à cause de sa bonté envers des créatures pauvres et misérables. Il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, et c'est encore lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, et c'est toujours lui qui rassasie de bien ta vieillesse, et qui te fait, rajeunir carrément, qui te fait rajeunir, rappelez-vous, il est dit, rajeunir comme un aigle. C'est merveilleux, cette expression. Psaume 103, versets 1 à 3. Donc, c'est ainsi que la prière des saints se transforme en louange et action de grâce, mais, elle reste néanmoins une prière. C'est un mystère. Le peuple de Dieu prie avec des louanges, ainsi qu'il est écrit. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il est important de toujours essayer, autant qu'on le peut, de justifier ce qu'on dit par les indications qui se trouvent dans le Saint-Livre, la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait dire n'importe quoi qui sonnerait religieusement, mais il faut surtout que ça corresponde à ce que la parole de Dieu veut nous donner. Une prière d'action de grâce pour les bénédictions reçues, et c'est une prière importante aux yeux de Dieu. Et oui, c'est une prière à laquelle il prend plaisir. Quelquefois, l'âme peut éprouver un sentiment de miséricorde dans la prière. Cela aussi enflamme l'âme. Il est dit « Toi-même, Éternel des armées ». C'est ce que dit le roi David. « Toi-même, Éternel des armées, tu t'es révélé à ton serviteur et tu as dit « Je te construirai une maison ». Et c'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. 2 Samuel, chapitre 7, verset 27. Et cela pousse Jacob, David et Daniel, et d'autres encore, conscients de leurs besoins et de toute leur misère, de la volonté de Dieu, à faire miséricorde et à exposer leur situation devant le Seigneur, non pas à bâton rompu ou d'une manière légère et même frivole, mais, voyez-vous, avec force, avec ferveur et avec persévérance. Alléluia. Troisièmement, la prière est un épanchement sincère, conscient et plein d'amour de l'âme à Dieu. Que de chaleur, de force, de vie, de vigueur et d'amour dans une véritable prière. David pria dans le psaume, je crois, 42, verset 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, car je désire pratiquer tes ordonnances. » Chapitre 119 du psaume, psaume 119, verset 40. Donc, j'ai soupiré après ton salut. Oui, oui, mon âme soupire et elle languit après les parvis de l'Éternel. Et mon Dieu, il est vraiment dans mon cœur. Et ma chair pousse vraiment des cris vers mon Dieu qui est vivant. Ça, c'est d'une version qui est amplifiée anglaise. C'est le psaume 84, verset 2. Si une fois je peux éventuellement me tromper, vous me pardonnerez, mais j'essaye toujours d'être très précis, si possible. Je suis hélas qu'un être humain. Oui, il est toujours dit que mon âme est brisée par le désir qui ouvre carrément la porte vers tes lois. Psaume 119, verset 20. Chers amis, que d'amour, on peut le dire, que d'amour nous découvrons ici dans la prière. Il en est de même par, on peut dire, par certains prophètes tels que Daniel. Par exemple, Daniel, il dit « Seigneur, écoute, ô Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. » Daniel chapitre 9, verset 19. Chaque mot porte en lui une véhémence puissante. C'est ce que Jacques appelle la prière fervente du juste. Jacques chapitre 5 verset 16. Et ainsi encore, étant en agonie, Jésus-Christ priait plus instamment. Saint Luc chapitre 22 verset 44. Ce qu'il ressentait le poussait de plus en plus vers la main secourable de Dieu. Oui, la plupart des hommes sont loin dans leur prière de cette prière-là. Hélas, la majorité des hommes n'a pas conscience du tout du rôle de l'amour dans la prière. Quant à ceux qui l'ont, il est à craindre que beaucoup parmi eux soient très loin d'un épanchement sincère, conscient et plein d'amour de leur cœur ou de leur âme à Dieu. Ils se contentent d'un court bavardage ou d'un exercice corporel, murmurant quelques vagues prières lorsque les sentiments sont vraiment, vraiment engagés dans la prière. Alors là, l'homme entier est engagé, et cela de telle sorte que l'âme préférerait se consumer carrément plutôt que de se passer de ce bien qui est tant désiré et de cette communion avec Jésus-Christ. Oui, chers amis, la prière est un épanchement du cœur et de l'âme. Et dans la prière, le fort intérieur de l'homme se découvre. Ah oui, son cœur s'ouvre à Dieu. L'âme s'épanche vers amour, avec amour en requête. Elle soupire et elle gémit. Il est dit toujours dans les merveilleux psaumes, je crois au chapitre 38, verset 9, vous pouvez noter que tous mes désirs sont devant toi. C'est ce que dit le roi David. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Psaume 38, verset 9. Et encore, toujours dans les psaumes. Mon âme a soif de Dieu. Soif de Dieu, on peut dire du Dieu vivant, car c'est une réalité, Dieu. Et quand viendrai-je et vais-je paraître devant toi, ô mon Dieu? Et je me souvenais carrément de ces choses et je répandais mon âme au-dedans de moi. Je voudrais répéter cela peut-être un peu mieux. Mon âme a soif de Dieu, vraiment du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? Je me souvenais de ces choses et je répandais mon âme au-dedans de moi. Psaume 42, versets 3 à 5. Ça, c'est la version Darby. C'est une très bonne version. Remarquez que le psalmiste nous dit « Je répandais mon âme ». Cette expression signifie que toute vie et toute force vont vers Dieu dans la prière. Et oui, vont vers Dieu dans la prière. Et ailleurs, nous trouvons ces merveilleuses paroles. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Oui, répandez vos cœurs en sa présence. Psaume 62, verset 9. Et c'est à cette prière d'une créature misérable que Dieu a promis de répondre pour la délivrer de la captivité et de l'esclavage. Il a dit « Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Et si tu le cherches, mais vraiment de tout ton cœur et de toute ton âme, eh bien, tu le trouveras. Deutéronome, chapitre 4, verset 29. De plus, la prière est un épanchement du cœur ou de l'âme à Dieu, on peut aussi dire de l'esprit, notre esprit. Et cela montre donc aussi l'excellence de l'esprit de prière. C'est vers le grand Dieu qu'elle monte, notre prière. Et quand paraîtrai-je devant Dieu ? Cela montre que l'âme qui prie vraiment, vraiment de cette façon-là, ne voit que du vide dans toutes ces choses qui sont sous le ciel, de peu d'importance, qui sont sous le ciel, donc ici sur terre. Donc en Dieu seul, on peut dire, se trouve la paix et la satisfaction pour l'âme et notre esprit. 1 Timothée, chapitre 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, elle met son espérance en Dieu. J'ai dit 1 Timothée, chapitre 5, verset 5. David, lui aussi, y parle en disant « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, ô sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu es résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Tu es mon Dieu. Donc, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, et en toi, je me confie dès ma jeunesse. » Psaume 71, ou si vous voulez, 71, versets 1 à 5. Beaucoup parlent de Dieu, mais la prière véritable ne voit rien d'important, rien qui soit digne d'être recherché, sinon Dieu seul. Et cela, comme je l'ai déjà dit, d'une façon sincère, consciente et pleine d'amour. Je le répète, la prière est vraiment un épanchement sincère qui doit être conscient et plein d'amour du cœur et de l'âme à Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Par Christ, il faut absolument l'ajouter. Sinon, voyez-vous, il y a lieu de se demander si c'est une véritable prière, même si, en apparence, elle n'a jamais été aussi remarquable et aussi éloquente. Selon Saint Jean, chapitre 14, verset 16, je crois que là, Christ, on voit, est vraiment le chemin par lequel l'âme, notre esprit, peut atteindre Dieu, et sans laquelle, ou sans lequel, il est carrément impossible d'arriver à Dieu. Voyez-vous, ce que vous demanderez, est-il dit, au Père, et ceci en mon nom, c'est ce que dit Jésus-Christ. Je répète, ce que vous demanderez au Père en mon saint nom, il vous le refusera. Pas du tout. Il vous le donnera, nous est-il dit dans Saint Jean chapitre 15, verset 16. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Jean 14, verset 16. Non, c'est bien Saint Jean chapitre 15, verset 16. Excusez-moi. Chers amis, ce ne sont pas ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ dans la prière qui prient vraiment et effectivement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Aller à Dieu par Jésus-Christ, c'est la chose absolument la plus difficile dans la prière. Un homme peut être conscient de sa condition, il peut désirer sincèrement la grâce sans être capable de venir à Dieu par Jésus-Christ. L'homme qui vient à Dieu par Jésus-Christ doit avant tout le connaître. Ça vaut la peine de répéter. L'homme qui vient à Dieu par Jésus-Christ doit avant toute chose le connaître, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie vraiment que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc celui qui s'approche de Dieu par Jésus-Christ doit être à même de connaître Jésus-Christ. Seigneur, c'est ce que dit Moïse. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Exode chapitre 33, verset 13. Oui, venir à Dieu par Christ, c'est pour le pécheur avoir été mis par Dieu en état de se réfugier à l'ombre du Seigneur Jésus comme un homme se cache pour se protéger du danger. C'est comme un membre du Christ que le vrai croyant vient à Dieu. Je dis comme membre du corps de Christ, car Dieu considère cet homme comme faisant partie de Christ, partie de son corps, de sa chair, de ses os, uni à lui par élection, par conversion, par illumination, et le Saint-Esprit venant donc demeurer dans le cœur de cet homme, de cette femme, par la grâce de Dieu. Je crois que ça vaut la peine de répéter. Donc, c'est comme un membre du Christ que le véritable croyant vient à Dieu. Je dis comme membre du corps de Christ, car Dieu considère cet homme, cette femme comme faisant partie de Christ, partie de son corps, de sa chair, de ses os, unis à lui par élection, par conversion, par illumination, et le Saint-Esprit venant demeurer dans le cœur de cet homme, de cette femme, par la grâce de Dieu. Ainsi, il vient à Dieu par les mérites de Christ, par son sang versé, par sa justice, par sa victoire, par son intercession. Et il se présente devant Dieu dans la grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Et ceci selon Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Oui, parce que cette pauvre créature que nous sommes en vérité est un membre du Seigneur Jésus. Et ainsi, elle est admise devant Dieu, et en vertu de cette union-là, eh bien le Saint-Esprit lui est accordé pour lui permettre d'épancher son âme, son esprit à Dieu. Quatrièmement, la prière est un épanchement sincère, conscient et plein d'amour du cœur ou de l'âme à Dieu par Christ. Nous devons donc prier par la force et l'assistance du Saint-Esprit. Toutes ces choses dépendent tellement les unes des autres qu'il est impossible que la prière existe sans le concours de tous ces éléments réunis. Quoique éloquente elle n'est qu'une prière rejetée par Dieu si elle ne possède pas tous ces éléments-là. Dans un épanchement sincère, conscient, plein d'amour du cœur à Dieu, elle n'est qu'un vain bavardage. Vous avez bien compris, sans toute notre sincérité d'âme et d'esprit, alors notre prière sera en quelque sorte qu'un vain bavardage, si elle n'est pas offerte par Jésus-Christ, alors elle est bien loin de plaire à l'oreille de Dieu. Voyez-vous, il est important, très important, de comprendre que ce qui n'est pas demandé sous l'influence et avec l'assistance du Saint-Esprit ne peut être en accord avec la volonté de Dieu. C'est écrit dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Cinquièmement, chers amis, la prière est un épanchement donc sincère, qui doit être conscient, qui doit être plein d'amour de notre cœur et d'esprit à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous le répétons, ça vaut la peine. Et nous devons donc prier avec la puissance et avec l'assistance de l'Esprit-Saint pour les choses promises par Dieu, selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 6 à 8. Beaucoup d'indications bibliques à noter, mais ainsi vous comprendrez que nous essayons de nous tenir vraiment fidèlement à la parole de Dieu. La prière n'est sincère que si elle demeure entre les limites de ce que Dieu nous révèle dans sa sainte parole. Elle est un blasphème ou un vain bavardage si ce que nous demandons n'est pas conforme à la Bible. Et c'est pourquoi le roi David, dans sa prière, il gardait les yeux fixés sur la sainte parole de Dieu. Il a dit « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi donc la vie selon ta sainte parole. Mon âme pleure de chagrin. Oh, relève-moi selon ta sainte parole. » Psaume chapitre 119, versets 25 à 28. Et souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Verset 49, toujours du psaume 119. En effet, ce n'est pas par une influence extérieure que le Saint-Esprit agit dans le cœur de l'homme, c'est par la parole de Dieu, en la faisant pénétrer dans le cœur. Il pousse l'homme à aller vers le Seigneur, à lui exposer l'état de son âme, à plaider carrément et à supplier selon sa sainte parole. Il en était ainsi pour le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9, je crois, versets 2 à 3. Ce puissant prophète du Seigneur, ayant compris par les livres que la captivité des enfants d'Israël approchait de sa fin, il adresse cette prière à Dieu. « Moi, Daniel, j'ai vu donc, par les livres, par exemple tels que les écrits de Jérémie, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel chapitre 9, versets 2 et 3. Comme l'Esprit Saint est le soutien et le maître de l'âme et de l'esprit, quand elle prie selon la volonté de Dieu, il la guide aussi par la parole de Dieu et selon sa sainte promesse. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu chapitre 26, verset 63, je pense que c'est bien cela. Non, excusez-moi. Selon saint Matthieu chapitre 26, versets 53 et 54. Ainsi, bien qu'il allait de sa vie, il en allait de sa vie, il jugea opportun de dire « Penses-tu vraiment que je ne puisse pas invoquer mon Dieu qui me donnerait à l'instant ?» À l'instant, c'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, je répète bien. Pensez-vous que je ne puisse pas invoquer l'Éternel mon Dieu, qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les saintes Écritures, d'après lesquelles il doit, hélas, en être ainsi? On a dit saint Matthieu, chapitre 26, versets 53 et 54. Alors, n'y aurait-il qu'un seul mot dans les Écritures saintes à ce sujet-là? Je serais vite tiré de la main de mes ennemis et je serais assisté, dit-il toujours, par des anges. Et combien d'anges? Des légions entières. Mais les saintes Écritures n'en parlent pas toujours. Il n'y a, en effet, pas fait mention. Ainsi, je ne le demanderai pas, dit-il. Je pourrais, mais ce n'est pas écrit que je dois les demander, car les saintes Écritures ne veulent pas justifier ce genre de prière. Donc il faut prier selon la sainte parole et selon les promesses de Dieu, et pas autre chose. L'esprit de la parole, l'Esprit Saint de la parole, doit diriger la façon de prier comme il a assigné le but de la prière. Je prierai par l'esprit, par mon esprit, mais je prierai aussi, oui, je prierai aussi avec l'intelligence, est-il dit en tout cas dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Il n'y a pas de compréhension sans sa sainte parole. Je crois qu'on peut noter Jérémie chapitre 8, verset 9. Il n'y a pas de compréhension sans sa sainte parole. Et sixièmement, la prière, elle est vraiment pour le bien également de l'Église. Et cette clause comprend tout ce qui contribue à l'homme, c'est-à-dire à l'honneur de Dieu. Je répète, la prière est vraiment pour le bien de l'Église. Et heureusement que cette clause comprend tout ce qui contribue à l'honneur de Dieu et à l'avancement de Christ ou également au bien de son peuple. Donc, Christ et son peuple ont des liens si étroits que lorsque on prie pour le bien de l'un, les besoins des autres y sont inclus. Il est dit comme Christ est dans le Père, ainsi, les saints sont en Christ, et celui qui touche au saint, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. priez donc pour la paix de l'Église. Et vous, priez aussi pour tout ce qu'on attend de vous. Vous avez une sérieuse part à jouer. C'est de votre responsabilité. N'oubliez jamais. Car l'Église n'aura jamais la paix parfaite avant d'être au ciel. C'est la place que Dieu, par Christ, lui a donnée. Celui donc qui prie pour la paix et pour le bien de l'Église, il prie pour la grâce abonde, pour que la grâce puisse abonder dans toutes les églises et qu'elle résiste à toutes ces tentations, que Dieu ne permette rien qui soit trop difficile pour elle, que toute chose puisse concourir à son bien et que Dieu garde ses enfants sans tache et les préserve de tout mal. Et ceci pour sa sainte gloire, pour sa merveilleuse gloire, dans un monde qui est perverti, on peut bien le dire, et pervers. C'est là la substance de la prière de Jésus-Christ dans Saint Jean, chapitre 17. Et le modèle, c'est le modèle de toutes les prières de l'apôtre Paul. L'une d'elles le montre tout particulièrement, je crois, dans Philippiens, oui, Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 11. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, qu'elle puisse augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et ceci, afin que vous soyez purs, vous avez compris, nous devons être purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis même du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 11. Oui, c'est une prière courte, vous le voyez, mais riche, très riche, en supplications pour le bien de l'Église du commencement à la fin, pour qu'elle reste debout et qu'elle continue dans le meilleur état d'esprit, sans reproche, sincère et sans faute, jusqu'au jour de Christ, quelles que soient ses tentations ou ses persécutions. Alors là, notez, par exemple, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 21, toujours Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, ainsi que Colossiens chapitre 1, versets 9 à 13. Chers amis, c'est honteux ce que je vais vous dire, mais c'est écrit dans un journal important en Suisse. Église à vendre. Vous avez bien entendu. Église à vendre. Où allons-nous? Mais nous, qui connaissons un peu la parole de Dieu, nous savons où on va, vers où on va. Mais c'est terrible, église à vendre. Et ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas seulement en Amérique. C'est dans toute l'Europe. Les mosquées continuent de se construire. Et bientôt, il y aura probablement plus de mosquées que d'églises puisque les églises sont à vendre. Mais tout ça, c'est pas la faute à Dieu. Pas du tout. C'est totalement, mais absolument la faute aux chrétiens, à nous. Nous sommes tellement divisés, chacun pour soi, que nous ne prions pas ensemble. Voyez-vous, je prie beaucoup pour que ceux qui écoutent ces CD sur la prière, car cette série sera longue, très longue et importante. Et si il y aurait que une centaine de chrétiens, ça sera certainement plutôt les femmes. Elles sont plus près du Seigneur souvent. L'homme est tellement imbu de lui-même. Il se croit tellement fort. Moi, par exemple, pas du tout. Hein. À 84 ans, c'est déjà un miracle quand on est debout. Mais je voudrais simplement que vous priez avec moi pour que vraiment des chrétiens puissent se réunir pour prier. Prier dans leur église, dans leur communauté, dans leurs assemblées. Prier. Ça, c'est important. Autrement, ça descendra la pente et les églises seront et continueront à se vendre. C'est pas moi qui le dis, c'était dans le journal. Et septièmement, pardonnez-moi d'avoir un peu interrompu, je me sentais guidé à dire ce que je viens de dire. Et septièmement, chers amis, la prière, elle est, comme je l'ai dit, elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle doit se soumettre à la volonté de Dieu et elle demande que ta volonté soit faite selon l'enseignement de Christ dans Saint Matthieu chapitre 6, verset 10. Le peuple du Seigneur, il doit en toute humilité se mettre avec ses prières et tout ce qu'il possède aux pieds de Dieu, afin qu'il dispose de lui dans sa suprême sagesse comme bon lui semble, dans l'assurance que, sans aucun doute, Dieu répondra au désir de son peuple de la manière la plus conforme à son bien et à sa gloire. Que les saints prient dans un esprit de soumission à la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils doivent douter de l'amour de Dieu et de sa bonté et les mettre en question. Ils ne sont pas toujours assez parfaits pour que Satan ne puisse quelquefois les pousser à prier pour des choses qui ne serviraient ni à la gloire de Dieu, ni au bien de son peuple. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa sainte volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, si du moins nous l'avons demandée dans l'Esprit Saint de grâce et de supplication. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Comme je vous l'ai dit, la demande qui n'est pas faite par l'Esprit, et à travers lui, n'est pas exaucée, car elle est en dehors de la volonté de Dieu. Or l'Esprit Saint, il est le seul qui connaît toutes choses, et par conséquent, il sait comment prier selon cette volonté. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit Saint de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous en parlerons un peu plus loin dans nos CD. Oui, chers amis, vous avez, sachez bien, un Créateur qui est si merveilleux. Un Créateur, et c'est votre Père Céleste. Si vous n'entendez plus sa voix, c'est que pareil à tous les hommes, vous avez choisi inconsciemment, peut-être, de vivre votre vie à vous, plutôt que d'entrer dans la réalisation des plans paternels. Et si vous êtes satisfait de la vie que vous avez choisie, les jouissances vaines ou coupables, ou vous cherchez peut-être un peu d'oubli, l'oubli ne vont-elle pas, chers amis, laisser souvent, en quelque sorte, un arrière-goût d'amertume? Alors, à quoi bon naître? À quoi bon lutter? À quoi bon travailler, souffrir et mourir? Comment trouver la paix véritable? Entendre la voix rassurante de notre Père Céleste? Vous connaissez, oui, vous connaissez sans doute un peu l'histoire du Fils prodigue, je l'espère. C'est un peu notre histoire à nous, hein? Pourquoi pas? Car il voulait son indépendance, nous aussi. Il voulait vivre à sa guise, nous aussi. Il a rassemblé ses biens et il a quitté le foyer. Mais après avoir tout dépensé, il s'est vu réduit à garder un troupeau de porcs, de cochons. Et là, mourant de faim, il est rentré en lui-même, l'image du Père s'est imposée à son esprit, et il a eu la nostalgie, heureusement, du climat familial. Voilà ce que j'ai fait, mais voilà ce que je vais faire, s'est-il dit tout à coup. J'irai donc vers mon Père, et je lui dirai sincèrement, humblement, « Oh, mon Père, oui, je reconnais, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne du tout d'être appelé ton fils. Alors traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il avait fallu la famine, il avait fallu la misère pour qu'il comprenne enfin toute la folie de son choix. Avoir voulu vivre uniquement pour lui-même. C'est ça, voyez-vous, être égoïste. Oui, il a fallu donc la faim, comme je vous ai dit, la misère, pour qu'il comprenne toute la folie de son choix. Il avait fallu tout cela. Et pour finir, il a crié, « Oui, j'ai péché. » Mais voyez-vous, il faut noter ceci et le retenir soigneusement pour toujours dans notre cœur et notre esprit, il ne se contenta pas seulement de reconnaître ses torts. Il a pris la seule décision raisonnable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai avec détermination, avec la volonté que j'ai tout compris. Je vais faire une démarche précise. Il n'y a donc pas d'autre véritable solution que celle-là, c'est de cesser de fuir Dieu et nous devons revenir à lui dans un élan de confiance. Et quand le fils a atteint la maison paternelle, il l'a trouvée ouverte et il a même trouvé deux bras qui n'avaient pas cessé, jamais cessé de l'attendre. Oh, que c'est beau! Il a dit, mon père, j'ai péché. Et cette prière du fils prodigue est celle que Dieu aime à entendre en premier lieu de toi et de moi. Beaucoup multiplient des requêtes en tout genre, prières égoïstes surtout, qui n'ont souvent pour but que la satisfaction des convoitises du cœur. De telles prières restent souvent sans aucune réponse. Mais quand cette véritable prière lui est adressée et que nous disons « Père, j'ai péché, je ne suis vraiment pas digne », alors Dieu rétablit, il pardonne et le lien se refait. Il pardonne à tous ceux, à quiconque éprouve le besoin de sa grâce et de son merveilleux amour. À partir de là, et dans tous les temps, il y a eu l'insistance avec laquelle tous les grands hommes et femmes de Dieu ont mis l'accent sur la nécessité de la repentance. Sans elle, rien, absolument rien de nouveau, va pouvoir commencer. En ce moment, si du fond du cœur tu reconnais ton manque de sainteté, manque d'amour et de justice, si tu ne tentes pas de cacher à Dieu ton péché, je parle aussi pour moi, sois assuré qu'il t'écoute et que tu trouves en lui l'amour, l'amour d'un père avec sa tendresse et son pardon. C'est bien là l'accueil que reçoit le fils prodigue à son retour, comme il était encore bien loin. C'est ce que nous dit le texte. Son père l'a vu et il fut ému de compassion. Il a même couru. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le de cette merveilleuse robe. Mettez-lui un anneau de grande valeur au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia !» Ça, c'est Saint-Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Oui, de par sa nature, cette prière est avant tout un SOS. Ces trois lettres de l'indicatif international de détresse sont les initiales des mots anglais « Save our souls »,« Sauver nos âmes ». C'est le dernier appel lancé à d'autres hommes encore à même d'intervenir pour sauver des vies, mais absolument incapables de sauver l'âme. On peut sauver des vies, mais sauver l'âme, c'est autre chose. Dans leur signification profonde, ces trois mots trouvent leur véritable place dans la bouche de l'homme, de la femme, qui est soudain conscient de l'abîme vers lequel son péché l'entraîne et de son incapacité personnelle à résister à l'envoûtement du mal. Voyez-vous, meurtri, on peut dire, meurtri par le péché, repris dans sa conscience, il se découvre tel qu'il est, criminel ou adultère, usé par les remords et pareil au bateau démantelé, livré à la tempête, honnête homme, femme, rentrant en lui-même et découvrant les compromis, découvrant les mauvaises pensées et les désirs coupables qui sont cachés sous le manteau de son honorabilité, semblable au somptueux paquebot qu'une voie d'eau irréparable condamne à sombrer au milieu de l'océan. Il se sait donc perdu. Il ne peut compter que sur lui-même. Et il s'écrit « Save our souls ». Chers amis, beaucoup de prières, pourtant, ne sont que des bribes d'oraisons tirées de quelques coins de mémoire face à la faillite ou sous les bombes. Ce qui inspire ces prières-là, c'est que la peur. Bien qu'intéressées, de telles prières peuvent cependant être un premier pas vers Dieu, heureusement pour nous. Pour être valables, elles doivent pourtant devenir le SOS de l'âme et de l'esprit, ce cri à l'aide que chaque bouche peut prononcer, même celle de l'incrédule, pourvu surtout que son auteur comprenne la vanité de sa propre vie. Plusieurs ont raconté comment, dans l'abattement et le découragement, ils se sont tournés vers l'inconnu, disant « Ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. » Nourri peut-être d'objections intellectuelles ou philosophiques, ils manifestent pourtant par cette simple prière leur désir de vérité. Et Dieu s'est révélé à eux, ôtant l'obstacle et les amenant à la foi et sauvant leur âme et leur esprit, pour que soit entendu notre SOS. Il n'est qu'une seule condition, que nous nous sachions perdus, condamnés par la justice divine, que nous sachions que nous sommes séparés du Dieu saint, par la souillure, par le péché. Mon cher ami, ma chère amie, te sais-tu perdu? Peut-être pas. Peut-être oui. Hein? Je répète, est-ce que tu te sais perdu? Si c'est le cas, il n'est pas tout faux de t'agenouiller et de venir devant ton Seigneur. Il désire savoir si tu te sais perdu sans lui, car ceux qu'il sauve, ceux qu'il guérit vraiment, ce ne sont pas les bien portants, ce ne sont pas les gens satisfaits, ce ne sont même pas ceux qui se disent perdus, mais ce sont ceux qui le sont vraiment. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour chercher et pour sauver ceux qui sont justes, qui se trouvent bien, pas du tout, ceux qui se sentent perdus. Si tu as dû un jour faire cette découverte-là, en disant « je suis perdu », tu sais ce que c'est que la prière la plus dépouillée, la plus désespérée, la plus profonde et la plus fervente qui puisse vraiment être, c'est « Seigneur, save my soul, sauve mon âme ». Voyez-vous, appeler à l'aide, c'est croire qu'un salut est vraiment possible, c'est croire qu'il est offert, car Dieu peut sauver nos âmes parce que en Jésus-Christ, il a payé notre libération à la croix. Appeler Dieu à l'aide, c'est vraiment croire cela. Même si nous ne comprenons pas toute la portée de l'œuvre du Christ au calvaire, même s'il nous est impossible d'expliquer comment Dieu nous sauve, en l'appelant au secours, nous affirmons qu'il peut sauver, qu'il a tout accompli, qu'il a tout accompli lui-même pour ton salut et pour le mien. Je suis donc perdu, j'étais perdu, je le sais, car sa sainteté m'a sauvé après que j'ai cru que j'étais et que j'ai surtout compris que j'étais perdu. Mais le Seigneur, il est mort à la croix pour moi, pour toi. Donc maintenant je suis sauvé, car son amour m'a absous. Il m'absout. Oui, j'ai péché, Seigneur, en toi, ô toi. Viens et sauve mon âme. Voilà donc la prière qui est à la fois un cri de détresse et à la fois un acte de foi en la bonté et en la puissance de Dieu. En réponse, cher ami et chère amie, à ce cri, Dieu nous arrache définitivement à la condamnation éternelle. Alléluia. Et plus d'une fois pourtant, le chrétien, il redira le SOS face à la tentation, face au danger, face aux chutes ou même face au sommeil spirituel. Et c'est pour cela, chers amis, revenus à Dieu dans la repentance et la foi, nous sommes désormais ses enfants. Et oui, nous sommes donc membres de la famille céleste. Et nous avons réellement Dieu pour Père. La prière dès lors devient une nécessité absolument vitale. Elle est aussi indispensable à notre foi que la respiration à notre corps. Mille raisons font naître en nous le besoin de la prière. Je dirais, pour terminer, que l'œuvre elle-même est une occasion de nous instruire ou de nous ramener à Dieu, de nous apprendre la patience ou de nous pousser à la repentance. Ici, il est plus difficile de reconnaître l'amour de Dieu. C'est cependant la plus précieuse des preuves. Sommes-nous, chers amis, réellement ses fils s'il ne nous châtie pas? Car quel est le fils qui soit exempt du châtiment paternel? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, eh bien vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas ses propres fils, ses fils bien-aimés. Notez Hébreux chapitre 12, versets 7 à 8 et le verset 10. Dieu nous châtie pour notre bien. Ça, vous pouvez me croire. Il nous châtie vraiment pour notre bien, et ceci afin que nous participions à sa sainteté. Qu'il est malaisé de dire merci pour un deuil, pour telle calomnie qui nous blesse, pour les difficultés auxquelles il faut faire face, ou à la maladie qui nous accable. Qu'il est dur d'attendre avec reconnaissance une réponse qui semble sans cesse remise à plus tard. L'écrivain sacré, dans Hébreux chapitre 12, verset 11, avait raison d'ajouter que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour tous ceux qui ont été ainsi éprouvés un fruit paisible de justice. Aussi, pour que notre reconnaissance aille jusque-là, chers amis, il faut entrer dans le dessein de Dieu, il faut apprendre à reconnaître son action, à en découvrir les étapes dans nos épreuves et nos attentes, dans nos joies ou nos exaucements. Tant que le grand sujet de reconnaissance demeure par-dessus tout l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, et c'est lui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et voilà donc une raison de le bénir non pas une seule fois, mais tous les jours. Nous ne rappellerons jamais trop ce qu'il a souffert pour nous, son profond abaissement et l'ignominie de cette terrible croix. Tout cela, il l'a fait pour toi et pour moi. Nous allons terminer par la prière, si elle peut encore aller sur ce CD. Seigneur Jésus-Christ, en effet, toi seul es le chemin, la vérité, la vie de nos âmes et de notre esprit. Demeure en nous et nous en toi, comme toi-même tu demeures dans le Père. Hors de toi, nous ne pouvons absolument rien. En toi, nous pouvons toutes choses. Que nous demeurions attachés à toi, divin cep, pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, et ceci afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle tu nous appelles. Que la grâce et ta paix reposent sur nous, et qu'elle repose aussi sur tous les nôtres, au près et au loin, et que tous ensemble, nous puissions t'invoquer et que nous puissions te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton merveilleux saint nom. Amen. Amen. Et merci, chers amis, de l'intérêt que vous portez à ces études, et à bientôt à nouveau. Au revoir.